يقول: هل من نصيحة للمتحمسين للعمليات الانتحارية؟ هذه العمليات كما سماها صاحبها هي انتحارية، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل النفس، وبين أن من قتل نفسه بشيء فلا يزال يقتل نفسه يوم القيامة به ويعذب به. من قتل نفسه بسم فهو لا يزال يتحسس سم، ومن قتل نفسه بحديدة فلا يزال يقتل نفسه بحديدة يعذب به يوم القيامة، ومن قتل نفسه بعبوة متفجرة لا يزال يعذبه ربه سبحانه وتعالى بتلك العبوة المتفجرة، يفجر نفسه ويعذبها كما قتل نفسه في الدنيا بغير حق، وهذا لا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ceci est une question qui fut posée à Cheikh Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar al-Adani, hafizahullah ta'ala, lors du dernier vendredi de Ramadan de l'année 1429 après l'Hégire. La question: y a-t-il un conseil à donner pour ces jeunes qui ont été pris par le zèle des attentats suicides? La réponse: ces actions, comme fut mentionné dans la question, sont des actions suicides. Et certes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a mis en garde contre le suicide et a clarifié que quiconque qui commet un suicide par une chose continuera à se tuer lui-même au jour de la résurrection avec cette chose et sera châtié par cette chose. Quiconque se tue en avalant du poison, eh bien il continuera à sentir l'effet de ce poison au jour de la résurrection. Et quiconque se tue avec du fer, c'est-à-dire un couteau ou une épée, eh bien il continuera à se tuer par ce fer et sera puni par ce fer au jour de la résurrection. Ainsi, quiconque se tue en se faisant exploser avec une bombe, il continuera à être châtié au jour de la résurrection par son Seigneur en se faisant exploser par cette bombe. Et cela parce que il a tué sa propre personne dans la dunya sans raison ou sans droit, sans haqq. Et cela est donc une action qui n'est pas permise.
من المفاسد العظيمة للخاصة والعامة. قد يقول قائل: هؤلاء أرادوا قتل الكفار أو أرادوا كذلك الإصلاح، فيقال: وهل كل ما اشتهاه الإنسان وظن أنه أراده بنية حسنة دل ذلك على أنه عمل حسن؟ الجواب: لا، بل ينبغي أن تعرض الأعمال على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة وعلى وفق ما يفتي العلماء الراسخون في العلم. لست أهلا يا أخي المسلم ويا أيها الشاب المليء بالعاطفة التي ربما هي عاطفة فارغة عن العلم، لست أهل يا أيها الشاب أن تفتي نفسك في مسائل في الطهارة وفي مسائل في الصيام وفي مسائل في الطلاق وغيرها من أحكام الشرع، فأنت تعرف قدر نفسك وتضطر أن تسأل أهل العلم الراسخين، تسألهم عن الطهارة ودخول الخلاء، تسألهم عن أحكام في الصلاة إذا وقع لك سهو أو وقع خطأ، تسألهم عن أحكام الطلاق، معترف بأنك جاهل ومقصر ولست أهل في هذا الباب، فكيف يجوز لك أن تفتي نفسك في دماء وشيء يتعلق بالأمن وأمور عظيمة مثل هذه وتهمش هؤلاء العلماء الراسخين في العلم وتترك ما يفتون به من تحريم هذه الأفعال وأنها أفعال الخوارج وأنها أفعال محرمة غير جائزة وأن فيها من المفاسد للعامة والخاصة الشيء الكثير؟ فينبغي عليك أن تتعقل وأن تعلم أن من يغذيك بهذه الفتاوى فهو من المفسدين وممن يريد لك الشر، وإلا فلماذا هذا المفتي الذي يفتي بهذه الفتوى لا يتقرب إلى ربه بفعل هذا لنفسه. اسأله بدلا من أن تفتي هؤلاء الشباب لماذا لا تفعل أنت هذا. سبحان الله، كيف يرضون لأبناء المسلمين بهذا الشر، مع أنه والله لا يجوز لا له ولا لغيره، لكن لأجل أن تعلموا أنه يوجد في صفوف المسلمين من هؤلاء الذين يستغلون عواطف هؤلاء الشباب فيما يدفعونهم إلى الفساد والإفساد.
En plus du caractère interdit de cette action, il faut savoir que cette action a des méfaits énormes sur la communauté entière. Et certes, des gens vont dire, ces personnes qui ont fait ce genre d'action ont voulu tuer les kuffars et ont voulu améliorer la situation des musulmans. Eh bien, on leur répond en disant, et est-ce que chaque chose que l'être humain désire et croit être bonne ou pense l'avoir fait avec une bonne intention, est-ce que cela montre que l'action est bonne en elle-même? La réponse, non. Mais ce que nous devons faire, c'est peser nos actions sur la balance du Coran et de la Sunna, en fonction de la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, As-Salaf al-Salih, et en étant en accord avec les fatawa que les ulama ar-rasikhun fil ilm, les ulama, les savants qui sont fermement enracinés dans la science, ont donné. Tu n'es pas en droit, ô mon frère musulman, ô jeune qui est rempli d'émotions, émotions qui sont peut-être totalement dénudées de science, tu n'es pas en droit de te faire tes propres fatawa en ce qui concerne at-tahara, la purification et les ablutions, ni en ce qui concerne as-siyam, le jeûne, ni en ce qui concerne at-talaq, le divorce, et ni autre chose de la sharia de l'islam. Et cela parce que tu sais très bien quel est ton niveau, et tu te sens obligé d'en revenir à al-ulama ar-rasikhuna fil ilm, les savants qui sont fermement enracinés dans la science. Tu leur demandes au sujet de at-tahara, les ablutions, les règlements de l'utilisation des toilettes, les règlements de la prière, qu'est-ce que tu dois faire au cas où tu as fait une erreur dans ta prière, les règlements du divorce et tout ça. Tout cela parce que tu avoues que tu es ignorant et que tu n'es pas apte à faire cela toi-même. Et si tel est le cas, pour des affaires comme nous les avons mentionnées, ablutions et autres, si tu n'es pas en droit de te faire ta propre fatwa pour ça, comment peux-tu oser croire que tu puisses te faire ta propre fatwa en ce qui concerne le sang des gens et en ce qui concerne la sécurité de la communauté entière et faire des fatwas dans des affaires d'une telle amplitude? Et comment peux-tu laisser de côté al-ulama ar-rasikhuna fil ilm, les savants qui sont fermement enracinés dans la science, et laisser leur fatwa qui explique clairement le caractère interdit de ces actions dans notre sharia et qui explique clairement que ces actions font partie des actions de l'Khawarij et qui explique clairement quels sont les méfaits qui accompagnent ces actions sur la communauté? Ce que tu dois faire, c'est être raisonnable, raisonner, et savoir que les personnes qui te nourrissent avec ces fatawa sont des personnes qui essaient de te corrompre. Et ce sont des personnes qui te veulent du mal. Et si tel n'était pas le cas, comment se fait-il que la personne qui t'a donné ce genre d'informations et t'a donné ce genre de fatwa, pourquoi cette personne ne se rapproche-t-elle pas de son Seigneur par ce genre d'action elle-même? Demande-lui, plutôt que de dire à ces jeunes, va te faire exploser, etc., pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Subhanallah, comment est-ce que ces gens peuvent vouloir ce genre de mal aux jeunes de la communauté musulmane? Wallahi, c'est ni permis pour eux, ni pour autre que de faire ce genre de choses. Mais nous avons mentionné cela pour que tu saches qu'il y a parmi les rangs des musulmans ces gens qui utilisent les sentiments de ces jeunes afin de les pourrir et afin de les pousser dans la corruption.
ثم بعد ذلك يقال هذه الأعمال في الحقيقة مفاسدها أعظم من مصالحها وهي محرمة ومع ذلك فيها مفاسد أكثر وأكثر يزداد بذلك حرمتها. كم من المسلمين الذين قتلوا وكم من الأموال التي كذلك أضيعت بسبب هذه الأفعال؟ هل هذا شيء يرضى عنه الشرع؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من القتل عموما والنفس ونفس المسلم على وجه الخصوص، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا يزال في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما، هذا الدم الحرام ولو كان دم كافر، حتى ولو كان كافرا لا يجوز لك أن تقتله وهو حرام الدم. وممن هو حرام الدم من الكفار الذمي الذي يدفع الجزية للمسلمين، ومن هؤلاء المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد كحال أكثر الكفار في الدنيا اليوم، فإن بين المسلمين وبين الكفار في هذا الزمان عهود ينبغي ألا تنقض وألا كذلك تسقط ما دام الكفار يقومون بمقتضاها والمسلمون يقومون بمقتضاها، فيجب الوفاء بالعهود. وهذه من أخلاق أهل الإسلام ومن عقيدة أهل الإسلام. وهكذا كذلك المستأمن ولو كان حربيا إذا دخل إلى بلاد الإسلام بأمان، ولو بأمان رجل واحد مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة وهي امرأة من المسلمين: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني حفظنا دم الرجل الذي أدخل فيه بأمان. انظر، حفظ الإسلام أمان رجل كافر حربي قاتل المسلمين وقتل من المسلمين من قتل، لأنه دخل بأمان امرأة مسلمة إلى بلاد الإسلام. فكيف بمن يدخل بإذن ولاة أمور المسلمين وبأمانهم؟ هذا أشد وأولى بالحفظ، فينبغي أن ننتبه لهذا. فليس كل كافر حلال الدم.
Ensuite, nous disons, ces actions en réalité comportent plus de méfaits qu'elles ne comportent de bienfaits. Et c'est pour cela que leur caractère interdit, leur caractère haram ne fait qu'augmenter. Combien de musulmans furent tués dans ce genre d'action? Combien de biens furent détruits suite à ce genre d'action? Est-ce que cela est une chose qui est en accord avec la charia? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a mis en garde contre le fait de tuer en général et contre le fait de tuer un musulman en particulier. Car certes, il fut rapporté par voie authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam a dit: certes, la personne ne cesse d'être dans un état d'aise et de facilité de sa religion, pour autant qu'il ne verse pas de sang haram. Et ce sang haram peut être même le sang d'un kafir. Car même s'il est un kafir, cela ne veut pas dire qu'il est permis pour toi de le tuer. Et parmi ces kuffars qui sont haram ud-dam, qui sont interdits d'être tués, c'est al-dhimmi. Le dhimmi, c'est le kafir qui vit en terre d'islam et qui paye al-jizya aux musulmans. Et parmi, ou le kafir qui paye la jizya aux musulmans en général. Et parmi ces gens, il y a également al-mu'ahad. Al-mu'ahad, c'est le kafir qui a un accord avec les musulmans. Et cela est la situation de la majorité des kuffars qui vivent dans la dunya aujourd'hui. Car certes, il y a entre les musulmans et les kuffars des accords de nos jours. Et il est obligatoire pour nous de respecter ces accords et de ne pas les briser, pour autant que les kuffars se tiennent aux implications de ces accords. Et le fait de respecter les accords fait partie des obligations de la religion, yani. Ensuite, cela fait aussi partie du comportement des gens de l'islam et cela fait partie de la aqida des musulmans, de la aqida de l'islam. Ensuite, parmi ces kuffars, il y a aussi al-musta'man. Al-musta'man, même s'il est harbi. Al-musta'man, c'est le kafir qui est rentré en terre d'islam sous la protection d'une personne musulmane. D'une personne musulmane. Et ne serait-ce qu'une seule personne. Même si ce n'est qu'une seule personne. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit à une femme qui faisait partie des femmes musulmanes: لَقَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِ يَعْنِ, c'est-à-dire nous avons pris sous notre protection celui que tu as pris sous ta protection, يَا أُمَّ هَانِ, c'est-à-dire nous avons protégé le sang de l'homme que tu as fait rentrer dans nos terres sous ta protection. Regarde, ici l'islam a protégé la sécurité. L'islam a conservé la sécurité d'un homme qui était kafir, harbi, il combattait les musulmans et il a tué un nombre de musulmans. Et l'islam l'a protégé parce qu'il est rentré sous l'aman d'une femme musulmane, c'est-à-dire sous la protection d'une femme musulmane. Donc si tel est le cas, qu'en est-il des kuffars qui rentrent sous la protection des dirigeants musulmans? Certes, leur protection est plus en droit d'être respectée. Ainsi, il est important pour nous de comprendre que les kuffars ne sont pas tous halal ou dam, ne sont pas tous permissibles d'être tués. Ensuite, que dire au sujet du fait que ces actions se sont vues supportées par un certain nombre de kuffars? Certes, un nombre de kuffars ont commencé à soutenir ces khawarij, ces gens de la da'wa du takfir, par différentes formes de soutien. Soutien financier, soutien matériel, soutien non matériel, etc. Et tout cela dans le but que ces gens propagent la zizanie et le bazar dans les pays musulmans. Et cela est dans un but bien précis. Ces kuffars font cela dans le but de voir ces gens-là leur donner le moyen de s'introduire et d'introduire leur pouvoir dans les pays musulmans. Il sera dit par la suite, regardez, vous êtes incapables d'assurer la sécurité de votre propre pays. Ainsi, les gouvernements des kuffars commencent à s'introduire dans les affaires internes des pays musulmans. Et ainsi, les maux consécutifs commencent à s'abattre sur les musulmans à cause de ces actions de ces gens empressés et ces gens qui sèment la zizanie. Et la plus forte preuve que nous pouvons mentionner pour cela, c'est l'effort que nous voyons des pays des kuffars dans le but de protéger les têtes de la da'wa du takfir. Regarde, où vivent les têtes de la da'wa du takfir aujourd'hui? Ils vivent en Grande-Bretagne. Et si ces pays vraiment voulaient rendre justice au mal qui a été causé par les attentats à travers le monde, eh bien les têtes de cette propagande vivent juste avec eux, juste à côté d'eux, en Grande-Bretagne. Et il n'est pas inconnu ce qui s'est passé récemment dans différentes cours de justice, lorsque certaines de ces têtes furent attrapées. Ce qui s'est passé, c'est que un nombre de takfiris ont causé du tort dans certains pays musulmans et ont causé la mort d'un nombre de musulmans et d'un nombre de non-musulmans. Ensuite, suite à cela, ces takfiris ont pris fuite vers les pays des kuffars et se sont réfugiés dans ces pays des kuffars. Ensuite, ils furent attrapés et furent menés en justice. Ensuite, le jugement fut passé sur eux, disant que ils devaient être remis aux autorités de ce pays en question dans lequel ils avaient commis ces attentats et ces assassinats. Suite à cela, l'affaire fut menée à une cour supérieure. Et il fut dit que la possibilité était grande que si jamais ces personnes furent données aux mains de cette autorité musulmane, qu'elles soient exécutées pour ce qu'elles aient fait. Ainsi, l'État d'Angleterre a décrété que, afin de protéger cette personne de l'exécution, que ces personnes seraient protégées en Angleterre et resteraient en Angleterre. Est-ce que l'Angleterre a fait cela dans le but de servir l'islam et les musulmans, ou est-ce qu'ils ont fait ça dans le but de voir ces gens-là leur donner le moyen de s'introduire dans les pays musulmans en semant la zizanie? Tout doué de raison sait quel est le véritable but derrière ces actions. Ainsi, il est pour nous important et obligatoire pour nous de prendre garde et de savoir que ces manières de faire et cette idéologie viennent toutes d'une idéologie déviante qui n'est pas en accord avec la charia de l'islam et qu'il est obligatoire pour le musulman en général et pour le jeune musulman en particulier de s'en remettre aux ulama ar-rasikhina fil ilm, les ulama qui sont fermement enraciné dans la science et de chercher à avoir une compréhension correcte des règlements de leur religion en général et des règlements de la religion dans ces affaires-ci en particulier. Et nous nous limitons à cela, inshallah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa sallam, wa jazakumullahu khayran.